Nous plongerons ce matin nos regards dans le livre du prophète Daniel, et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en Daniel chapitre 3. Nous lirons les versets 14 à 29, c'est à la page 995 des Bibles bleues que vous trouverez sur les bancs devant vous. Daniel chapitre 3, versets 14 à 29, page 995. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi: « Certainement, roi. » Il reprit: « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit: « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quelques mots sur le contexte de ce passage. Un pluralisme religieux oppressant. En 605 avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar, un roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Suite à sa victoire sur Juda, Nebuchadnezzar déporta tous les dignitaires juifs à Babylone. Tout envahisseur a sa manière d'assujettir les pays conquis. Les Romains, au temps de Jésus, le faisaient en taxant les habitants pour les affaiblir suffisamment, mais en leur donnant assez de liberté pour ne pas créer en eux de désir de révolte. Les Babyloniens, eux, bien avant le temps des Romains, agissaient différemment. Après avoir envahi un pays, les dignitaires du pays conquis, ainsi qu'un grand nombre de jeunes, étaient envoyés à la capitale, Babylone. et envoyé non pas en tant que prisonnier, mais en tant qu'habitant. C'est ainsi que le jeune Daniel est de ce nombre de déportés, ainsi que trois autres gens, Anania, Michaël et Azaria. Alors que la ville de Jérusalem est en ruine, voilà que Daniel et ses amis arrivent dans une ville somptueuse, à la culture immense, à l'architecture impressionnante. Il faut reconnaître que les Babyloniens étaient brillants et très en avance par rapport à Juda dans bien des domaines, très en avance sur tous les pays voisins, médecine, chirurgie, mathématiques. On trouvait tout cela à Babylone. De la campagne de Jérusalem, les déportés arrivent dans une métropole développée et faste. La stratégie babylonienne est la suivante, l'assujettissement par assimilation. Les dignitaires des pays conquis et les jeunes s'habitueront ainsi aux coutumes et valeurs de notre pays. Ils prendront goût à cette liberté et tout désir de révolte disparaîtra. Après avoir goûté à la liberté et au pouvoir, tous seront acquis à la cause babylonienne. Ainsi, arrivés à la cour de Nebuchadnezzar, Daniel et ses amis furent instruits dans les lettres et la langue des Chaldéens. Cette préparation dura 3 années, après lesquelles ils furent admis au service du roi, Daniel chapitre 1er. Au bout de 3 ans, il était possible pour un prisonnier de guerre d'être au service du roi. Voilà la puissance de l'assimilation, de l'assujettissement par assimilation. Au service du roi. Grâce à une révélation divine, Daniel, ayant réussi à raconter et expliquer au monarque un songe extraordinaire, il gagna sa faveur et devint gouverneur de la province de Babylone et surintendant de tous les sages de la capitale, Daniel, chapitre 2. Dans ce chapitre 3, nous apprenons que Nebuchadnezzar a fait construire une grande statue d'or de 30 mètres de haut. Lorsque le cor, la lyre, la harpe et la flûte sonneront, tous devront se prosterner devant cette statue. Toute personne refusant d'adorer cette statue sera jetée dans une fournaise où brûle un feu ardent. La pression du pluralisme religieux. Le titre que j'ai donné à ce point n'est-il pas contraire à ce que l'on apprend ici ? Posons-nous la question, quel dieu est représenté par cette statue d'or ? Il est intéressant de noter que le nom de la divinité n'est jamais donné. Cela parce que cette statue ne représente pas un dieu, mais tous les dieux. Nebuchadnezzar le dit lui-même dans le verset 14. « Est-ce vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ?» Le texte hébreu affirme en réalité « Vous n'adorez pas mes dieux en vous prosternant devant la statue. » La statue d'or ne représente pas un dieu, mais tous les dieux. La société babylonienne était très marquée par le pluralisme religieux. Ainsi se trouvaient, selon les experts à Babylone, plus de 1000 temples différents, dédiés à plus de 300 dieux. Toute la culture de Babylone est basée sur le pluralisme religieux. C'est même la clé de la réussite de l'assujettissement par assimilation. À Babylone se trouve tout un lot d'habitants de pays vaincus qui venaient à Babylone et qui avaient le droit de louer le dieu de leur pays. Tous peuvent adorer leur dieu. Mais ce pluralisme religieux allait beaucoup plus loin. Tu peux adorer ton Dieu en privé, mais en public, tu dois adorer tous les dieux. Le prosélytisme n'a pas sa place à Babylone. En privé, tu fais ce que tu veux, tu adores le Dieu que tu veux, mais en public, tu te dois de faire comme tout le monde. Dans toutes les grandes villes pluralistes qui ont existé, la problématique est la même. À Babylone, à Rome plus tard, à Paris aujourd'hui, tu peux adorer qui tu veux en privé. Mais en public, tu dois affirmer que tous les dieux se valent. Une société pluraliste ne peut avoir en son sein un ou des groupes prétendant détenir la seule vérité, le seul Dieu. La problématique à laquelle Daniel et ses amis sont confrontés est la même que nous aujourd'hui. En public, il est attendu de nous que nous nous prosternions devant tous les dieux de notre société. Ne nous trompons pas, notre société aujourd'hui est ultra pluraliste. Notre société est remplie de divinités. Elles ont pris des formes différentes de ce qu'elles étaient à l'époque, mais elles sont présentes aujourd'hui. Il y a la déesse beauté qu'il faut chercher à acquérir, l'idole argent, l'idole santé, le dieu du pouvoir, le dieu de l'amour, de la fête, ainsi de suite. Notre société souhaite que nous, chrétiens, vivions comme les non-chrétiens, et que nous désirions les mêmes choses, et que nous nous appliquions à acquérir ces mêmes choses de la même manière. Ainsi, nous dérangeons lorsque nous refusons de dire du mal d'un collègue pour avoir une promotion. Nous dérangeons lorsque nous cherchons l'amour et le pardon au lieu de la violence et de la vengeance. Nous dérangeons lorsque nous refusons d'utiliser un langage qui ne glorifie pas Dieu, ou lorsque nous refusons de rire à des blagues de mauvais goût. Nous dérangeons lorsque nous affirmons que la sexualité est limitée au cadre strict du mariage entre un homme et une femme. Pourquoi, vous, chrétiens, refusez-vous de vous prosterner devant les mêmes dieux que nous ? Nous vivons dans une société où le pluralisme est oppressant. Cette question de Nebuchadnezzar aux amis de Daniel s'oppose à nous tous les jours. Est-ce vrai que vous ne servez pas mes dieux ? Que vous n'adorez pas la statue que moi j'ai dressée ? Est-il vrai que vous, chrétiens, vous ne vous prosternez pas devant les idoles de notre société ? Cette question est posée à Anania, Michaël et Azaria. Ces jeunes ont grandi à Babylone. Ils travaillent pour le gouvernement babylonien. Ils sont impliqués dans la ville, dans la société, impliqués à tel point que leur nom hébreu n'est même plus utilisé. Ainsi, Anania s'appelle Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abed-Nego. C'est lui qui a perdu au change, je crois, dans les prénoms. Ces amis de Daniel ont tout à perdre de leur obéissance à Dieu. Il serait bien plus simple de se prosterner en public devant les faux dieux et de continuer en privé à adorer le seul vrai Dieu. Ils ont tout à perdre. Le roi Nebuchadnezzar leur pose cette question. Acceptez-vous de vous soumettre à ce pluralisme religieux ? Êtes-vous prêt à reconnaître que tous les dieux se valent ? Sinon, vous mourrez. Maintenant, verset 15, tenez-vous prêt. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. La réponse des amis de Daniel est magnifique, n'est-ce pas ? Nous avons ici l'une des plus belles confessions de foi de la Bible. Du moins, c'est mon avis. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais quand bien même il ne le ferait pas, sache que nous n'adorerons pas de faux dieux. Nous ne nous prosternerons pas devant cette idole. Dieu est capable de nous délivrer. Dieu est Dieu, rien ne lui est impossible. S'il le souhaite, il peut nous délivrer de la fournaise. Mais, il y a là toute la beauté de leur réponse, quand bien même il ne le ferait pas, nous ne nous prosternerons pas devant de faux dieux. Nous avons dans cette réponse une réponse on ne peut plus à propos. Ces jeunes adorent Dieu pour qui il est. S'ils adorent Dieu, c'est parce que Dieu est Dieu. Et c'est là la définition même d'une foi authentique. Ils préfèrent obéir à Dieu parce que Dieu est Dieu. Et non pas pour recevoir quelque chose en retour. Trop souvent, nous louons Dieu pour recevoir quelque chose en retour. J'aime Dieu parce qu'en retour, j'espère recevoir ceci ou cela de lui. Mais ce n'est pas cela la louange authentique. Nous sommes invités à louer Dieu, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais parce que Dieu est Dieu. Et que c'est à lui et à lui seul que reviennent gloire, honneur et louange. Je crois que la question se pose à nous ce matin. Adorons-nous Dieu parce qu'il est Dieu? Ou alors juste parce que nous espérons recevoir quelque chose en retour? Notre motivation pour louer Dieu est-elle juste? Ou est-elle intéressée? C'est une question à laquelle il n'est pas évident de répondre. Et c'est souvent l'arrivée de la souffrance qui va révéler l'état de notre cœur. Si nous louons Dieu parce qu'il est Dieu, l'arrivée de la souffrance ne changera rien. Cela ne veut pas dire que la souffrance ne sera pas difficile à gérer, mais nous continuerons de louer Dieu parce qu'il est Dieu et qu'il est tout aussi Dieu dans notre souffrance. Si nous louons Dieu pour de moins bonnes raisons, si nous le louons de manière intéressée, alors nous nous demanderons tout d'abord pourquoi cette souffrance, mais pas seulement pourquoi. Nous nous demanderons « qu'ai-je fait à Dieu pour mériter cela ? S'il m'aime vraiment, pourquoi me fait-il souffrir ? Dieu ne souhaitait-il pas mon obéissance ? À quoi m'a-t-il servi d'obéir à Dieu si lui, en retour, m'envoie la souffrance ?» Cette louange-là n'est pas de la louange, mais un investissement. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais quand bien même il ne le ferait pas, sache que nous n'adorerons pas de faux dieux. Nous ne nous prosternerons pas devant cette idole. Adorons-nous Dieu pour les bonnes raisons? Les amis de Daniel savaient qu'ils avaient humainement tout à perdre à continuer de louer Dieu. Mais Dieu est Dieu, et cela ils l'ont compris. Il ne pouvait se résoudre à dire que le Dieu créateur et les faux dieux créés par des hommes se valent. Dieu est Dieu, et seul Dieu est Dieu. C'est parce qu'ils ont compris que seul Dieu est Dieu qu'ils sont prêts à surmonter l'épreuve qui leur est présentée. Parce qu'ils savent, ils ont compris que Dieu est Dieu. Et je crois que c'est là la clé pour surmonter toute épreuve. Une juste compréhension de Dieu et de la foi. La foi, ce n'est pas chercher quelque chose de Dieu en retour, mais la foi, c'est comprendre qui il est. Seul Dieu est Dieu. Leur assurance, les amis de Daniel devant la mort, vient d'une juste compréhension de Dieu. S'ils ne souhaitent adorer aucun autre Dieu que Dieu, c'est parce qu'ils savent que Dieu est El Eloé. Dieu fort et prééminent. Il est Elohim, le Dieu créateur et fort. Il est El Shaddai, que l'on traduit par Dieu tout-puissant, même si la traduction de ce mot est très compliquée. Il est Adonai, le Seigneur éternel. Il est Yahvé Jiré, l'éternel pourvoira. Il est Yahvé Rapha, l'éternel guéri. Yahvé Nissi, l'éternel, la bannière, étendard de son peuple. Yahvé Emkadesh, l'éternel qui sanctifie. Qui rend saint. Yahvé Shalom, l'éternel, notre paix. Yahvé Tzidekenu, l'éternel, notre justice. Yahvé Roi, l'éternel, est notre berger. Yahvé Shama, l'éternel est ici. Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées. El Elyon, le Dieu très haut. El Roi, le Dieu qui voit. El Olam, le Dieu de toute éternité. Yahvé Osenu, l'éternel, notre créateur. El Haï, le Dieu vivant. Et à ces noms de Dieu, nous pouvons ajouter Emmanuel, Dieu avec nous, et Jésus, l'Éternel qui sauve. Ils ont compris qui était Dieu. Seul Dieu est Dieu. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère, verset 19. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. À la réponse des trois amis, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Le fait qu'il fasse chauffer la fournaise 7 fois plus qu'habituellement reflète bien la fournaise qui brûle dans son cœur. Une fois les amis de Daniel jetés à l'intérieur, la surprise du roi babylonien est grande. Deux choses le surprennent. Tout d'abord la première, voilà que des soldats sont morts rien qu'en étant à proximité de la fournaise, alors que les trois hommes jetés à l'intérieur même marchent en son sein comme si de rien n'était. Comment cela est-il possible? Ainsi comme les amis l'avaient annoncé au roi, le Dieu qu'ils servent peut les délivrer de la fournaise. N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Ils répondirent au roi, certainement, roi. Il reprit, eh bien j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Au sein de leur détresse, Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas seuls. Ils ont bénéficié de l'intervention de leur Dieu, de notre Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais au milieu de la détresse. Jamais. Mais une deuxième chose nous surprend. Quelque chose encore plus surprenant. Il n'y a non pas 3 personnes à l'intérieur, mais 4. Verset 25. Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. Et plus loin, au verset 28, Nebuchadnezzar reparle de ce 4e homme, je crois de manière prophétique, il l'appelle ainsi. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Dans l'Ancien Testament, il y a des anges, il y a un ange, l'ange. Il y a les anges, ces créatures célestes que Dieu envoie, et il y a ensuite l'ange de l'Éternel. Lorsque l'ange de l'Éternel intervient, cela n'a rien à voir avec Gabriel ou les autres anges. Si vous regardez à tout ce que l'Ancien Testament annonce au sujet de cet ange, vous comprendrez que cet ange est Dieu. Cet ange de l'Éternel ne parle pas uniquement au nom de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Je pourrais vous passer toutes les références où l'ange de l'Éternel intervient dans l'Ancien Testament. Le mot ange veut dire envoyé. L'ange de l'Éternel, c'est l'envoyé par excellence. C'est Dieu lui-même sous forme visible. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Le messager par excellence, ce n'est personne d'autre que le Christ. Nous avons, je le crois, ici en Daniel chapitre 3, ce que l'on appelle une théophanie, une apparition pré-incarnation de Christ. Ce qui a permis aux amis de Daniel de survivre à la fournaise, c'est la présence de Christ. Aujourd'hui encore, ce qui va nous permettre de surmonter toute épreuve, toute fournaise dans notre vie, c'est la présence de Christ dans notre vie. Si nous arrivons à comprendre ce que Christ a fait pour nous, nous arriverons à surmonter toute épreuve. Christ, parce qu'il nous aime, est allé jusqu'à donner sa vie en sacrifice dans la fournaise ultime. Si Christ est venu, c'est à cause de la fournaise qui nous attendait, l'enfer. Parce qu'il aime l'être humain, Christ était prêt à passer par le feu de la colère de Dieu à notre égard. La fournaise de Nebuchadnezzar n'est rien comparée au feu de la colère de Dieu. À cause de notre péché, nous méritions d'être séparés de Dieu pour toute éternité. Parce que nous avons préféré douter du Dieu à qui nous devons tout, nous aurions dû connaître sa colère. Nous aurions dû passer notre éternité loin de la présence du Dieu aimant, loin de son amour. Mais miracle de Noël, Christ est venu sur terre pour vivre comme nous aurions dû vivre. Et miracle de la Pâque, Christ a accepté de passer par la mort que nous méritions. Christ est passé par la fournaise à notre place. Christ, par sa présence, a permis aux amis de Daniel de vivre. Ne tardons pas, si ce n'est pas déjà le cas, à accepter Christ dans notre vie. Versets 28 et 29. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. » Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Nous noterons que l'attitude de Nebuchadnezzar n'a pas changé, qu'il reste excessif et violent dans sa réaction. Même si ses propos ont une valeur prophétique certaine, en ce qu'ils annoncent que c'est en Dieu seul que le salut peut être trouvé. Dieu est le seul qui peut nous sauver au travers de la fournaise du péché et de ses conséquences. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Qu'au contraire de ce qui paraît pour Nebuchadnezzar, nous laissions cette affirmation porter du fruit dans nos vies. Dieu est le seul, par Christ, à pouvoir nous sauver. Dieu est le seul, par Christ, à nous avoir sauvés. Mettons notre confiance en Christ. Amen.